À Lubumbashi sur 95,8. Nous démarrons cette émission à Lubumbashi dans le cadre de notre chronique consacrée au droit avec l'ONG Avocats sans frontières, puisque nous apprenons que près de 10 familles dans la commune de Kempimba à Lubumbashi sont sans abri depuis le mardi dernier, motif la parcelle a été achetée sans que l'ancien propriétaire ne soit au courant. En effet, ces familles ont été déguerpies par 3 personnes qui prétendent être de nouveaux acquéreurs. Selon le bourgmestre de cette commune, l'ancien propriétaire de cette parcelle détient des documents depuis 1984. Il dénonce aussi le non-respect de la procédure de déguerpissement, car il n'y a pas eu de préavis. Quelle est donc la procédure à suivre pour un déguerpissement? Nous en parlons aujourd'hui. Si vous êtes concerné par ce problème, vous pouvez également témoigner et parler de votre problème afin que nous puissions trouver des solutions avec notre invité, Maître Dominique Kamwando. Alors, sans plus tarder, nous allons directement à Lubumbashi pour rejoindre Colin Juma. Colin Juma, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, Nicole Lacan.
Alors, est-ce que vous avez pour commencer une idée sur la genèse de ce dossier?
Ce qu'il faut retenir ici, Nicole, est que l'affaire oppose M. Léon Kalala, âgé de 85 ans, à un groupe d'avocats de Mademoiselle Irène Gasparatos, une citoyenne d'origine grecque. Cette affaire, qui remonte depuis l'année 2007, a été portée au niveau du tribunal de grande instance de Lubumbashi, puis à la cour d'appel. Léon Kalala affirme avoir acheté cet immeuble auprès de l'État congolais, jadis aïrois, depuis 1982, après que ce bâtiment ait été déclaré bien sans maître. Il affirme aussi d'être détenteur de plusieurs documents, parmi lesquels le certificat d'enregistrement. Léon Kalala dénonce les manœuvres dilatoires d'un réseau mafieux de personnes qui se présentent comme les nouveaux acquéreurs de sa parcelle. Il ajoute aussi que Irène Gasparatos avait quitté le Congo vers les années 60 et est décédée en 2005 à Patras, en Grèce. On l'écoute.
Il y a un groupe bien organisé qui veulent me ravir la parcelle malgré mes documents. En complicité avec le premier président de la cour d'appel, Monsieur Denis Kikongo Mukuli, et le président du tribunal de grande instance, Monsieur Jimmy Muyambo. Ce groupe est dirigé par un certain Minga, avocat Rwabayizi et avocat Bambi, après avoir rendu l'arrêt de la cour d'appel par un certain juge Kakudi qui m'avait appelé chez moi, qui m'avait demandé 15 000 dollars. Moi, j'ai dit, je n'ai pas 15 000 dollars, monsieur Kakudi. Nous sommes allés avec Kakudi sur l'avenue Kapenda à l'hôtel Reka. Je lui ai dit la vérité que je n'ai pas l'argent à donner. Il m'a dit que malgré vos documents, je ne mangerai pas vos documents. S'il n'y a pas 15 000 dollars, vous perdez l'appartement.
Donc, nous retenons que ce bâtiment qui oppose aujourd'hui M. Léon Kalala à un groupe d'avocats de Mademoiselle Gasparatos, normalement, le premier, donc M. Kalala a acheté ce bâtiment depuis 82. Mais c'est aujourd'hui que l'affaire revient, carrément sur la justice. Alors bon, on aimerait avoir des précisions. Comment la police a-t-elle procédé, notamment au déguerpissement des personnes qui sont sur les lieux, là, dans cet immeuble?
Il faut d'abord noter que Léon Kalala ne vivait pas seul dans cette parcelle. Il y avait également des locataires. Un groupe d'éléments de la police armés de matraques et de fusils sont arrivés pour exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel du Katanga, arrêt selon lequel Léon Kalala devait libérer la maison. Les policiers se sont mis à jeter topus les biens dehors. Ceux qui voulaient résister ont été copieusement tabassés. Actuellement, la dizaine de familles passent la nuit à la Belle Étoile et sont exposées aux intempéries. Suivons ce témoignage d'une des victimes de cette situation.
Ndiyo mina toka ndiyo pale kwa kutanisha Banatika na kutoto hafo kulikuwa bukovi huko huko parisha kutoto binti hii kule chini chiyo
ni marano kwa mkusema huko
taka ba denyo ba polisi hapa parikuwa ba nyingi hapa barabaki hapa ba yoko na tichunga hapa benyo kurada hapa ni ba netano depuis va genitoche depuis le 8 janvier mpaka sasa hii mvule yote hiko na nisho papa kumaungo na mie na tutu la fami tuko inje binti yetu
inaridhika.
Donc là, ce sont les familles hein, qui étaient dans cet immeuble qui ont témoigné. Aujourd'hui, toutes ces familles passent la nuit carrément à la Belle Étoile. Est-ce qu'on peut connaître le nombre de personnes qui étaient dans cet immeuble, Colin Juma?
Oui, c'est vraiment difficile de connaître parce qu'il y avait aussi les enfants, mais on estime avoir plus de 40 personnes qui occupaient cet immeuble.
Alors, que disent finalement les avocats des nouveaux acquéreurs?
Nicole, tous les efforts fournis à notre niveau le week-end passé pour retrouver l'adresse précise du cabinet de ces groupes d'avocats dits des parties civiles sont restés vains.
Et comment expliquer que c'est après 20 ans que ces avocats maintenant réclament l'immeuble alors que M. Kell a acheté l'immeuble depuis 82? C'est ça aussi qu'on ne comprend pas.
Oui, au niveau de la cour d'appel, on a réquisé tous les dossiers, donc tous les dossiers que M. Kalala, Léon Kalala détenait, n'ont pas été retenus, n'ont pas été compris et bien analysés au niveau de la cour d'appel. On prétend dire que ces dossiers n'ont plus de valeur.
Alors comment a réagi finalement l'autorité de la commune de Kapemba, parce que c'est du ressort de la commune de Kapemba?
Le bourgmestre de la commune Kapemba, pour sa part, s'insurge contre le dégueulissement de ses familles sans qu'il ne soit informé. Sylvain Kouboula ne comprend pas que 40 ans après la cession de cet immeuble à un citoyen congolais, qu'un groupe de gens se disent aujourd'hui nouveaux propriétaires. On l'écoute.
Le père Marois se surprise que j'ai pu remarquer qu'il y a eu des choses jetées en dehors de la parcelle sur la servitude de l'État, sur la servitude de partage de l'État. Il y a eu plusieurs familles qui ont été déposées de la parcelle. Je pense qu'il y a un monsieur qui a lâché sa parcelle après 40 ans dans le camp qui devait abandonner à l'État. Jean-Louis, qui est aussi l'État congolais aujourd'hui, il a eu son certificat d'arrêt de promotion qui m'a présenté parce que je demandais les instructions. Sa plante de cette parcelle est achetée. Je me suis rendu sur place pour m'entourer de la situation. Est-ce que dans ma juridiction, avant de faire le dégueulissement, on devait s'intéresser à la commune, sinon la municipalité, c'est alors que la commune pouvait activer les raisons pour lesquelles on a demandé le dégueulissement.
Donc la commune n'a même pas été associée à ce déguerpissement, hein, c'est ce que nous retenons. Mais il faut savoir, d'après les informations que nous avons en notre possession, que là, ce genre de déguerpissement est fréquent, hein, pas seulement à Lubumbashi, mais même ailleurs au Congo.
Nicole, pour ce qui est de Lubumbashi, de temps en temps, on enregistre ces cas de personnes chassées à leur domicile au motif que la maison a été achetée. Un autre exemple concerne près de 30 personnes dont les enfants sont sans abri depuis près d'un mois au quartier Golf. Ils avaient été aussi déguerpis par des personnes qui se prétendent être les nouveaux propriétaires de la maison qu'ils occupaient.
On va faire donc le suivi avec Maître Dominique Lamoindou de l'ONG Avocats Sans Frontières afin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on se retrouve devant une situation pareille, on se retrouve devant une situation de déguerpissement. Quelle procédure à suivre pour un déguerpissement? Maître Dominique Lamoindou est bien placé pour nous donner toutes les réponses. Vous avez des questions, vous souhaitez témoigner, vous êtes les bienvenus au 081 070 2050. Merci beaucoup Colin Juma Moussampo et à la prochaine.
Merci à tous Nicole.
Okapi. Okapi, nos droits et nos devoirs.
Si vous souhaitez témoigner, donc, on attend avec beaucoup d'impatience vos réactions à notre numéro de téléphone. Envoyez des SMS, s'il vous plaît. Alors, nous faisons le point avec Maître Dominique Lamoindou. Maître, bonjour.
Bonjour, Madame Nicole.
Comme chaque lundi, nous avons un sujet en rapport avec le droit à développer avec vous. Aujourd'hui, nous parlons de la procédure à suivre en cas de déguerpissement. Vous avez suivi tout à l'heure le point que Colin Juma Moussampo nous a fait sur un cas à Lubumbashi, un monsieur qui aurait acheté un immeuble depuis 82 à l'État congolais. Et aujourd'hui, la famille, donc les propriétaires de cet immeuble reviennent et disent et se disent avoir été lésés et ils ont carrément chassé ceux qui habitaient cet immeuble. Est-ce que on a le droit de se comporter ainsi, Maître Dominique?
Merci beaucoup, Madame Nicole. Lorsqu'on parle du déguerpissement, il s'agit en pratique du fait d'expulser les personnes qui occupent un immeuble, une parcelle, et les personnes qui occupent cet immeuble de leur chef. c'est-à-dire les mettre dehors afin de faire jouir l'immeuble à celui qui en a le droit. En principe, quand on parle du déguerpissement, le déguerpissement peut se faire de plusieurs manières. Il y a le déguerpissement qui se fait lorsque l'usage et la jouissance d'un immeuble est fondé sur un contrat de bail. Dans ces cas, le bailleur doit notifier au locataire un préavis en matière des meubles à usage résidentiel, c'est 3 mois, et après cela, on peut notifier un préavis de 30 jours, et si, après ce délai, les locataires ne quittent pas les lieux, on peut les déguerpir par la force, requérir la force pour permettre au bailleur d'occuper les lieux. Lorsque un bien a été vendu, en principe, les bailleurs doivent prendre des dispositions dans le contrat des bails pour préciser ce qui peut arriver.
Quel bailleur? Parce que là...
Non, le premier bailleur, parce que celui qui achète n'est pas forcément ou automatiquement bailleur pour un contrat auquel il n'a pas pris part.
Okay.
L'ancien bailleur peut prendre des dispositions avec les locataires pour leur notifier le préavis avant de procéder à la vente. Lorsqu'il ne le fait pas et que les locataires se trouvent surpris par le nouveau
bailleur,
le nouveau propriétaire, et qui leur demande de déguerpir, dans ces cas-là, les locataires ont le droit d'assigner en justice leur ancien bailleur qui doit leur donner un dédommagement, qui doit leur payer le montant équivalent à la période de préavis légale prévue par la loi. Voilà.
Oui, mais vous avez suivi le cas qu'on vient de nous présenter par Colin Dumas-Moussompo.
Effectivement, on en vient, mais lorsque le contrat de bail a été signé à date certaine, c'est-à-dire un contrat à durée déterminée, même le nouveau, le bailleur doit mettre au courant l'acquéreur de l'existence de ce contrat. Mmh. Et le nouveau propriétaire ne peut pas expulser ou déguerpir les locataires avant ces délais, avant l'expiration
c'est
du contrat.
C'est bien de préciser cela.
Voilà, c'est ça, je vous préférais préciser cela dans un premier temps. Mais lorsque nous suivons l'histoire qui se passe à Lubumbashi dans le cas d'Espace, je comprends bien que là, il s'agit d'un déguerpissement fondé sur l'exécution d'un jugement, c'est-à-dire qu'il y a eu un litige entre les anciens propriétaires et l'actuel propriétaire qui a abouti par un jugement du tribunal de grande instance, du tribunal de la cour d'appel, et il y a eu un jugement qui, présentement, selon ce que je suis, pour serrer, couler en force des choses jugées. C'est-à-dire que le jugement est devenu irrévocable, on ne peut plus y revenir.
Mais maître, on ne l'a pas précisé, hein, qu'il y a eu un jugement. On nous a dit qu'il y a un monsieur, on revient quand même pour préciser à ceux-là qui viennent de nous rejoindre, c'était monsieur Léon Kalala, âgé de 85 ans, qui aujourd'hui est confronté à un groupe d'avocats de mademoiselle Gasparatos, Irène, une citoyenne d'origine grecque. Cette affaire qui remonte depuis l'année 2007 a été portée au niveau du tribunal de grande instance de Lubumbashi, puis à la cour d'appel. Léon Kalala affirme avoir acheté cet immeuble auprès de l'État congolais, jadis Zaïro, depuis 82, après que ce bâtiment ait été déclaré bien sans maître. Il affirme aussi être détenteur de plusieurs documents parmi lesquels le certificat d'enregistrement. Alors comment expliquer que ce problème puisse revenir aujourd'hui au niveau de la justice en 2000, nous sommes en 2008, hein, notre Dominique?
Effectivement, mais dans le reportage qu'on a suivi de Lubumbashi, je crois que c'est le monsieur Kalala lui-même qui a dit que l'affaire était portée devant la cour d'appel et qu'il je suppose qu'il y a eu un arrêt de la cour d'appel qui a vider cette affaire. Et l'arrêt doit être exécuté s'il n'y a pas eu d'autres recours.
Malgré qu'il avait acheté cet immeuble, par après, il a dû rendre compte à la justice.
On se rend compte qu'il a acheté l'immeuble et qu'après, d'autres personnes se prévalant du même immeuble sont allées en justice pour recouvrer leurs droits. Mmh. Et qu'il y a eu, si je comprends bien, un procès qui a opposé
il
M. Kalala. Non, mais parce qu'il dit qu'il est en justice. À moins que ce soit une matière gracieuse, mais si c'est une matière contentieuse, il doit être opposé à une autre matière.
Maître Dominique, est-ce que la législation congolaise ne condamne pas cette léthargie de la part des anciens propriétaires qui se disent, qui se réclament aujourd'hui les vrais propriétaires de cet immeuble? Ils ont gardé silence depuis longtemps.
Oui, ça fait plus de 20 ans.
Ça fait plus de 20 ans d'ailleurs.
Effectivement, ce n'est pas normal, mais comme nous n'avons pas les pièces du dossier, nous ne pouvons pas savoir dans l'entretemps qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu les tribunaux de grande instance étaient saisis, les tribunaux de la cour d'appel étaient saisis, c'est pour dire que pendant tout ce temps, il y a eu une procédure judiciaire qui était en train d'être suivie afin de déterminer qui est le vrai propriétaire. C'est peut-être l'issue de ces différentes procédures qui fait que les gens réclament aujourd'hui. C'est ce que je semble comprendre.
Oui. Alors donc, à ce niveau, est-ce que M. Kalala peut interjeter l'appel?
Si l'appel était déjà vidé par la Cour d'appel de Lubumbashi, la seule la voix qui reste maintenant, c'est le pouvoir en cassation au niveau de la Cour suprême des
justices. C'est-à-dire ?
Vous dites ?
C'est-à-dire,
c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu un arrêt rendu par la Cour d'appel au deuxième degré, et que la personne qui a perdu le procès n'est pas d'accord avec cet arrêt, sans remarque que la loi a été violée dans cette décision, la personne peut se pourvoir en cassation, c'est-à-dire saisir la Cour suprême de justice pour demander que cet arrêt qui viole la loi soit cassé dans ses dispositions.
Et qu'est-ce que ça va demander? Il faut qu'ils mettent des moyens pour aller en cassation?
En principe, d'abord parce que la Cour de cassation se trouve à Kinshasa, les dossiers doivent être transférés à Kinshasa, il doit se déplacer, il doit consulter un avocat après la Cour suprême et la procédure doit être suivie. Effectivement, ça doit demander des moyens.
La Cour suprême, il devrait se déplacer jusqu'ici. Hein.
Il peut faire acter son pouvoir en cassation sur place à la Cour d'appel de Lubumbashi. Cela ne demande pas nécessairement les déplacements, mais pour suivre les dossiers, cela va nécessiter qu'il y ait un avocat après la Cour suprême qui peut suivre les dossiers sur place ici à Kinshasa.
Oui, maître Dominique, une question de précision. Disons, selon la législation congolaise, quand est-ce qu'un bien peut être déclaré un bien sans maître?
En principe, un bien peut être déclaré sans maître lorsque, après plusieurs années, le bien est abandonné et personne ne s'en prévaut. C'est comme un bien abandonné qui n'a pas de propriétaire, alors dans ce cas-là, l'État peut les reprendre.
Alors, mais c'est ce qu'il y a une erreur, parce que cet immeuble était bel et bien occupé par une dizaine de familles, comme on l'a laissé entendre.
Du fait qu'il avait été abandonné.
Mais comment les instances juridiques, les instances judiciaires, peuvent-elles déclarer ces biens sans maître?
Non, moi, je comprends bien, ce ne sont pas les instances judiciaires, ce n'est ni les tribunaux de grande instance, ni la Cour d'appel qui a déclaré les biens sans maître. Ça doit être les services du conservateur qui ont fait rapport à l'État qui a un bien sans maître et l'État a récupéré les biens et l'a vendu parce que c'était un bien sans maître, un bien abandonné.
Mais il y a beaucoup de cas comme ça, hein, maître Dominique. Un peu partout au Congo, il y a des biens, entre guillemets, sans maître. Hein, il y a des immeubles qu'on appelle ça dans différentes villes, RDC, abandonnés. Est-ce que l'État peut aussi déclarer ces immeubles-là bien sans maître?
Lorsque la procédure a été suivie, on a fait des avis dans la presse et dans le journal officiel, et qu'après un certain délai, personne ne s'est présenté
pour se présenter. L'État congolais?
Les services de conservateur, les services d'affaires foncières, les services du conservateur, c'est sûrement l'État congolais, ce sont des services
après combien de temps?
Qui reviennent, qui sont du ressort
des délais précis, 20 ans, 30 ans.
En principe, il y a des délais précis par la loi, ça peut aller des 10 ans, ça peut aller même jusqu'à 30 ans. On observe, on suit, on fait des enquêtes. Lorsque personne ne se présente, à ce moment-là, l'État peut répondre.
Parlons de la procédure elle-même de déguerpissement, parce qu'on a vu des militaires, disons, avec des fusils qui viennent, disons, chasser ou sommer les familles à quitter cet immeuble. Est-ce que cette façon de faire la loi, la législation congolaise ne condamne pas?
Bon, on n'a pas les textes du dossier pour savoir comment cela. Si il s'agit de l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, on suppose qu'il y a eu, après que les jugements soient rendus, signification du jugement aux personnes qui occupent l'immeuble ou qui se prétendent être propriétaires qui étaient en procès. Et après ces délais-là, il y a, après avoir signifié les jugements, on laisse passer, comme c'est un arrêt de la Cour d'appel, on laisse passer les délais des 3 mois qui est prévu par la loi pour ses pouvoirs en cassation. Si la personne n'est pas allée en cassation, les jugements a acquis ce qu'on appelle autorité de la chose jugée. Après cela, on lui signifie ce qu'on appelle itératif commandement. C'est-à-dire un document qu'on lui notifie pour lui demander d'exécuter les jugements volontairement. Et que s'il ne l'exécute pas volontairement, on va procéder à l'exécution forcée. Et après, dans ces documents-là, on détermine un délai. On peut dire, bon, dans 30 jours, si vous ne vous exécutez pas, on va procéder à l'exécution forcée. Et après cela, on donne encore un préavis de 48 heures. Si après ces délais, la personne n'a pas exécuté volontairement les jugements rendus, on peut requérir la force
pour le faire par contrainte. En ce moment-là, la commune est associée.
En principe, dans les procédures d'exécution des jugements, c'est on peut ou ne pas associer la commune, ce n'est pas très, très nécessaire. Lorsque les procureurs de la République, sur rapport du tribunal, du greffier divisionnaire du tribunal, requièrent la force, les services du tribunal, les services du ministériel d'exécution peuvent procéder à l'exécution sans en informer la commune. Mmh. Mais l'information de la commune, on doit passer par les communes, ça c'est obligatoire lorsqu'il s'agit des dégressifs qui s'inscrivent dans le cadre de l'exécution d'un contrat de bail.
Oui, ce que nous retenons, c'est qu'il y a toujours un délai avant de procéder au dégressifs.
Effectivement.
Vous avez dit d'abord 3 mois, ensuite 48 heures. Hein.
Non, j'ai dit ceci, ça dépend de la procédure qui a été initiée. S'il s'agit d'un contrat, on donne d'abord d'un contrat de location, on donne d'abord 3 mois de préavis. Si à l'issue de ces 3 mois, la personne n'a pas quitté, on peut encore lui y accorder 30 jours supplémentaires. Et si au bout de ces 30 jours supplémentaires, on peut lui donner 15 jours de mise en demeure. Et s'il ne s'exécute toujours pas, là, on peut les déguerpir.
On ne peut pas le faire brutalement.
Non, on ne peut pas le faire brutalement. Là, on peut les déguerpir par la force. S'il s'agit d'un jugement, on signifie les jugements. On laisse couler les délais d'appel ou les délais de recours. Après, on signifie l'itératif commandement qui détermine aussi un délai.
Précisément.
Mais après, qu'on peut.
Mais est-ce qu'un dégressif se fait toujours avec la police?
En principe, on peut le faire sans la police ou avec la police. Les huissiers d'exécution peuvent le faire seuls avec les agents du tribunal. Mais lorsqu'il y a résistance à ce moment-là, on requiert la force publique pour pouvoir procéder aux dégressifs.
Alors, qu'est-ce qui se passe, au niveau de la cassation, si on se rendait compte que le jugement a été mal rendu, qu'est-ce qui va se passer?
Lorsqu'on se rend compte que le jugement a été mal rendu, la loi a été violée, la Cour suprême va casser les jugements, soit totalement, soit dans certaines des dispositions qui ont violé la loi. Et dans ce cas-là, on va renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel ou devant un autre tribunal qui avait rendu la décision au niveau d'appel pour pouvoir réexaminer les litiges. Et dans ce cas-là, la Cour suprême détermine à la juridiction qui doit rendre la vraie interprétation de la loi, dire en telle partie, la loi a été mal interprétée, voilà ce qui doit être dit comme droit, et renvoie les dossiers.
Et dans ces cas,
et l'on puisse restituer et juger.
Doit être indemnisé, doit être dédommagé.
La Cour suprême ne tranche pas vraiment le fond du litige, mais c'est lorsque on renvoie l'affaire pour que une autre cour d'appel ou un autre tribunal de grande instance, selon les cas, puisse réexaminer l'affaire. Dans ces cas-là, la personne peut postuler des dommages intérêts, c'est-à-dire demander des dommages intérêts lorsqu'elle a subi un préjudice.
Est-ce qu'il y a des cas comme ça qui sont déjà arrivés dans notre justice?
Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup si nous parcourons les arrêts, les bulletins des arrêts de la Cour suprême de justice qui sont depuis un temps publiés par les services de documentation et d'études. Nous verrons qu'il y a beaucoup de cas qui ont été cassés par la Cour suprême et sur lesquels la Cour d'appel ou une autre Cour d'appel ou un autre tribunal de grande instance, que celui qui avait rendu les jugements attaqués, a restatué et donné un nouveau jugement.
Pour aider Papa Kalala, c'était un peu de nous suivre. Est-ce que la Cour exige quand même un délai avant d'aller en cassation et après le jugement rendu au niveau de la Cour d'appel? Et un délai
Effectivement, la loi prévoit des délais pour éviter qu'il y ait des léthargies, qu'il y ait des affaires demeurent de manière indéfinie devant les juridictions. En principe, pour aller en cassation, il faut compter 3 mois à partir de la signification du jugement. Lorsqu'on vous remet les jugements qui a été rendu au niveau d'appel et que vous accusez réception, à partir de cette date-là, vous avez un délai de 3 mois pour aller en cassation.
Alors là, ça fait défaut. Papa Kalala est à Lubumbashi. S'il faut compter aussi avec le courrier, le moyen de communication pour amener ces dossiers à Kinshasa, ça fait prendre beaucoup de temps. Est-ce que notre justice tient compte de tous ces éléments?
Effectivement, parce que lorsque le dossier n'est pas encore arrivé au niveau de la Cour suprême, mais lorsqu'il a déjà fait acter la cassation au niveau de la Cour d'appel sur place à Lubumbashi et que l'acte des pouvoirs exercés dans les dossiers, on ne peut pas exécuter les jugements.
Mmh. Mais ce que nous retenons, c'est que peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup de Papa Kalala, c'est-à-dire des gens qui ont acheté les immeubles, des maisons à l'État congolais, parce que ces maisons étaient abandonnées, entre guillemets, mais par après, ce dossier se retrouve entre les mains de la justice. Donc il faut bien réfléchir avant d'acheter une maison ou un immeuble qui aurait été acheté par l'État congolais.
Effectivement, mais ces personnes peuvent aussi appeler en garantie leur vendeur, l'État congolais. Et si ces personnes avaient été induites en erreur par l'État congolais, ils peuvent demander que l'État congolais puisse réparer les préjudices.
Autrement dit, les rembourser.
Oui.
Mais ça n'a même pas
de sens. C'est ça, des dommages.
Mais combien de cas connaissez-vous où l'État congolais a remboursé? Dernièrement, on a eu un cas avec vous dans cette émission.
Il y a des décisions contre l'État congolais. Il y en a qui sont exécutées, il y en a qui ne le sont pas encore, mais il y a bien des décisions dans lesquelles l'État congolais a été condamné.
Mais il faut tout de même réfléchir, hein, bien réfléchir avant d'acheter.
Effectivement.
Maître Dominique, on va s'arrêter là. Nous rappelons à tous nos auditeurs qui peuvent encore intervenir, hein, parce qu'on peut toujours faire le suivi pour ce dossier, hein, voir comment ça a évolué au 081 070 2050. Vous avez aussi la possibilité de nous écrire à l'adresse email action@radiocapi.net. Maître, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir été
avec nous. Merci Nicole, merci Gilles.
Et à la prochaine.